La capsule.
Allô ?
Allô ?
Allô ? Allô ?
Allô ?
Allô ?
Le coup de fil à un ami.
Allô ?
Au signal, veuillez dicter votre message.
Alors, moi, j'ai entendu dire que le CNES allait développer une mission pour étudier le carbone. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus ?
Au CNES, celle qui sait, c'est Carole Déniel, responsable des programmes Composition atmosphérique. Allô, Carole ?
Ouais.
Est-ce que tu peux nous rappeler, dans la problématique du changement climatique, quels sont précisément les enjeux de l'étude du carbone ?
Les enjeux scientifiques sont la compréhension et la localisation des flux qui sont émis au niveau de la surface de la planète, des flux de carbone, en particulier du dioxyde de carbone, le CO2. La différence entre ce qui est émis et ce qui est absorbé par les surfaces terrestres ou les océans. Le contenu atmosphérique en CO2, on le connaît à peu près globalement. Par contre, ce qu'on ne connaît pas bien, c'est où il y a des gros puits de carbone et où il y a des grosses émissions de carbone. Et ça, on a besoin de localiser précisément pour mieux estimer les flux de surface au niveau de la planète. Si on arrive à mieux localiser et quantifier les flux de carbone au niveau de la planète, on sera peut-être capable de se retourner vers tel ou tel pays qui sera responsable, par exemple, là, de la déforestation, là, de l'acidification des océans, là, d'une industrialisation peut-être trop forte qui va émettre beaucoup de carbone, pour notamment le respect du protocole de Kyoto. Les enjeux économiques, forcément derrière, ça nécessite des adaptations au niveau industriel, au niveau des transports, au niveau des pratiques agricoles, qui génèrent évidemment derrière une nouvelle économie, ce qu'on appelle l'économie verte.
Et actuellement, quels sont les outils de mesure dont on dispose dans le monde ?
Aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est que les pays qui ont ratifié Kyoto fassent remonter leurs émissions de carbone. Donc ça, c'est des informations qui ne sont pas mesurées, mais qui sont évaluées par chaque pays. Côté scientifique, on a bien sûr des données qui existent. Alors, il y a des réseaux sols qui vont mesurer in situ la concentration de carbone dans l'atmosphère, ou alors au-dessus des océans avec les bateaux, hein, qui vont être équipés de capteurs, ou avec des réseaux de télédétection. Donc ça, c'est un réseau sol qui nous permet d'avoir une estimation des flux de carbone au niveau de la surface. À côté de ça, on a aussi des satellites, comme IASI par exemple, qui nous permettent d'avoir de la mesure de carbone, de CO2, dans la haute atmosphère, une fois qu'il a été bien mélangé au niveau de la planète. Alors ça, c'est ce qui nous permet de connaître le contenu en CO2 au niveau global. Hein. Mais par contre, c'est celui qui est à 8-10 km d'altitude, et donc on n'est pas capable d'identifier où est-ce qu'il a été émis et où est-ce qu'il a été éventuellement piégé au sol.
Et qu'est-ce qui nous manque finalement aujourd'hui et qui conduit le CNES à proposer la mission spatiale Microcarb ?
Le réseau sol nous donne une information très locale. Les stations sont installées essentiellement dans des pays qui ont les moyens de développer ces réseaux. Or, par exemple, en Amérique du Sud, on n'a pas forcément les moyens de développer ces réseaux sols. Et puis, c'est pas toujours possible parce qu'au milieu de la forêt, on n'est pas capable d'y aller pour installer des capteurs. Donc, on a une vraie lacune aujourd'hui quand même de la mesure pour estimer le flux, de façon à avoir une vision globale de la planète, puisqu'il y a bien sûr des émissions anthropiques de CO2, mais il y a aussi des émissions et des captations de CO2 qui sont naturelles. Pour bien comprendre le cycle du carbone, il faut bien comprendre aussi toute la composante naturelle d'émissions et d'absorption du CO2. En ça, le satellite va nous permettre d'avoir une vision globale et une estimation du CO2 au niveau de l'ensemble de la planète, y compris au-dessus des océans, au-dessus des régions arctiques boréales non habitées ou des grandes forêts amazoniennes, des forêts primaires.
Donc la mission Microcarb, c'est avant tout une mission scientifique.
L'objectif premier, c'est bien les réponses à des questions scientifiques. C'est un domaine de recherche qui est actuellement en plein essor, qui éventuellement derrière aura des potentialités si on est capable effectivement de faire des cartographies valides, constantes et qui permettent d'entrevoir des perspectives de services opérationnels générant tout un tas de nouveaux métiers, notamment sur l'économie dite verte. En ce sens, cette mission a été proposé dans le cadre du grand emprunt.
Comment s'y prend-on pour mesurer le carbone depuis l'espace ?
Il y a plusieurs techniques qui existent pour mesurer le CO2 dans l'atmosphère. Il y a les techniques dites actives, c'est-à-dire le LIDAR, où on envoie un faisceau et on mesure l'écho du faisceau laser pour en déduire la caractéristique atmosphérique. Et puis, il y a la mesure dite passive, où là, on récupère le rayonnement dans le proche infrarouge réémis par la Terre. Et grâce à ces rayonnements terrestres, on est capable de restituer les propriétés de l'atmosphère, et en particulier de la concentration du CO2. Une des techniques qui est favorisée pour cette mission-là, c'est un concept qui a été développé par le CNES depuis des années et qui permettrait d'avoir un instrument compact et assez peu coûteux.
Merci, Carole Daniel.
Ah, merci, c'est beaucoup plus clair comme ça.
Dans tous les sens.
Chut. Attention, accrochez-vous, car voici une nouvelle renversante. Les satellites qui tournent autour de nos têtes ne flottent pas dans l'espace, ils sont en chute libre. Mais alors, puisqu'ils chutent, pourquoi ne retombent-ils pas sur Terre? Parce que lorsqu'ils ont quitté notre planète, la fusée sur laquelle ils étaient juchés leur a transmis une vitesse de 28 000 km/h. Cette vitesse, appelée la première vitesse cosmique, contrebalance très exactement l'attraction terrestre. Si rien ne vient freiner leur course, les voici en chute libre perpétuelle. Malheureusement, au voisinage immédiat de la Terre, il reste toujours une poignée de molécules d'air qui suffisent à ralentir inexorablement la course des vaisseaux spatiaux et à précipiter leur chute. Là, deux solutions. Soit ils ont encore assez de carburant pour retrouver la bonne vitesse, soit il faut se résigner à les faire rentrer dans l'atmosphère de façon contrôlée. Pour que ces satellites ne tombent jamais sur la tête de personne, le CNES fait cogiter des spécialistes de mécanique spatiale. Ces derniers savent qu'en faisant rentrer un satellite dans l'atmosphère à un endroit donné, ce qui aura survécu au frottement contre les couches de l'atmosphère tombera quelques dizaines de minutes plus tard dans une région du Pacifique totalement désertée. Finalement, le secret pour bien revenir de l'espace est un peu le même que celui des bonnes chroniques. Il ne faut surtout pas rater la chute.
Mais qu'en pensent les étoiles ? Mais qu'en pensent les étoiles ?
Avatar de l'espace. Si, dans la dernière réalisation cinématographique de James Cameron, les thèmes de la colonisation et de la conquête des nouveaux mondes, de l'exploitation abusive de ressources aux dépens des espèces vivantes et des milieux, du heurt entre les cultures et les civilisations, ou bien encore des conflits entre opérations militaires et projets scientifiques, trouvent d'impressionnantes mises en scène, il ne faudrait pas trop vite oublier le titre retenu, celui d'Avatar, et la réalité imaginaire qu'il désigne, une capacité, je cite Cameron lui-même, d'insuffler l'intelligence d'un humain dans un corps situé à distance, un corps biologique. Par ce biais, par cet intermédiaire issu du génie génétique, des neurosciences et de, que sais-je encore, le cinéaste propose une solution à tous ceux dont la passion d'explorer ou le projet de conquérir se heurte aux limites de la condition humaine et de ses technologies, à l'inhospitalité des milieux terrestres, et plus encore extraterrestres, aux contraintes d'espace et de temps. Alors, pourquoi ne pas rêver, dans un avenir proche, d'avatars d'humains, non plus virtuels mais bien réels cette fois, qui se lanceraient à la conquête de l'espace, proche ou lointain, délivrés des contraintes de notre enveloppe charnelle? Cette perspective invite à plusieurs remarques et réflexions. Il faut d'abord rappeler que si nous ne possédons pas d'avatar biologique, nous envoyons d'ores et déjà des robots là où nous ne pouvons pas encore poser le pied. L'un d'entre eux, le rover américain Spirit, vient de s'immobiliser définitivement après avoir parcouru en 6 années près de 8 km à la surface de Mars. Il faudra sans doute attendre encore longtemps avant que des astronautes ne viennent de la Terre pour le retirer des sables de la planète rouge. La mise au point d'avatar qui serait biologique ne manquera pas de poser, au-delà des défis scientifiques et techniques, de nombreuses questions philosophiques et éthiques. Lorsque moi-même devient un autre, il est urgent de se demander qui suis-je ? Les recherches actuelles en matière d'intelligence artificielle conduisent déjà à s'interroger sur la place à accorder au support biologique dans la possession et l'exercice d'une conscience ou de sentiments. Toutefois, il ne faudra pas attendre l'éventuelle réalisation de tels projets pour réfléchir aux questions portées à l'écran par Cameron. Parmi elles, celles que je rassemblerai sous l'étiquette d'éthique de l'exploration. Ainsi, jusqu'à quel point la capacité scientifique, technique, politique, économique, mais aussi le courage d'entreprendre et de réussir à explorer d'autres mondes que les nôtres, nous donne-t-il un pouvoir sur eux, sur ce qui nous apparaît comme des ressources, sur les espèces et les milieux, les intelligences et les cultures que nous pourrions découvrir? Quels seraient nos droits et nos devoirs à leur égard? Les chercheurs en astrobiologie, les prospecteurs lunaires ne peuvent pas ignorer de telles questions. Mais comment les aiderons-nous à se les poser?
Alors, allons-y.
Allons-y. La capsule a été imaginée par Daniel Fievé, Didier Jamais et Séverine Klein. Écrite par...
Essentiellement Didier Jamais.
Et c'est qui a écrit le titre? C'est quand même le plus important.
Il n'y a pas que toi, il y a Jacques Arnoux.
Oui, bien moi aussi. Mais on ne peut pas mettre ma chronique et celle de Jacques au même niveau.
Non, tu as raison. Et d'ailleurs, ta chronique ne serait rien sans ma voix.
Et moi, je suis l'auteur du titre. Et ben qui c'est qui va aller sur le terrain?
C'est Daniel qui a raison. Le talent, la création, c'est nous.
Oui, mais le montage, l'habillage, c'est
oui, non, mais bon.
Bon, les rois de la créa, là en bas.
Oui. Roger.
Votre temps de parole est écoulé pour aujourd'hui. Il serait peut-être temps de rentrer chez vous.
On redémarre ? C'est qui a les clés ?
Allez, à la prochaine.